Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés en ce joli mardi matin où nous allons déjà ne pas vous parler de politique parce que je crois qu'on en a tous collectivement assez gros. On en a ras-le-bol de ces débiles, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et donc on va essayer de parler d'autre chose. On va essayer de parler de la France, ce qui changera d'eux. Parce que j'ai toujours le sentiment qu'ils parlent de beaucoup de choses, mais pas véritablement de nous.
Ça ne les intéresse pas du tout.
Ils parlent beaucoup d'eux. Et moi, j'aimerais bien essayer de regarder ce pays et de nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'en sortir. Et la meilleure façon de regarder et d'étudier la meilleure façon de s'en sortir, c'est de voir comment les autres
s'en sont sortis.
Donc c'est exactement l'exercice auquel nous allons nous livrer aujourd'hui. Nous allons essayer de voir comment des pays voisins, en l'occurrence la Suède, qui était dans un marasme absolument forcené après des années de parti socialiste,
absolument,
a pu se sortir d'une crise de la dette, d'une crise des financements aux entrepreneurs et a pu essayer de retrouver un dynamisme en quelques années, parce qu'après tout, c'est pas parce que nous on échoue que les autres ne devraient pas réussir. Donc cette fois-ci, on va essayer de voir comment s'est-y qu'on fait pour s'en sortir, ma bonne dame.
En tout cas, c'est certainement pas avec la taxe, en augmentant les impôts. Ça, c'est la première des choses. Et je vais dire ça dès le départ, je ne connais pas un seul pays dans l'histoire qui se soit sorti d'une situation de surendettement en augmentant les impôts. Je ne connais pas, ça n'a jamais existé. Donc la première des choses, c'est quand les gens vous disent il faut augmenter les impôts pour réduire le déficit, c'est dès le départ une imbécilité. Et c'est des gens qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas regardé ce qui s'est passé. Alors, on va vous parler de la Suède, et on va comparer ça à l'évolution de la France depuis 1992. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1992? D'abord, la Suède avait eu un régime socialiste très dur, qui était très à gauche, qui était nationalisé, augmenter les impôts, etc.
Tu sais qu'ils avaient des impôts effectivement très très hauts en Suède et que parmi les choses qui étaient taxées, il y avait les costumes de comédiens et en fait ne pouvaient être déclarés et donc write-off, tu sais, amorti que les vêtements de comédiens qui étaient vraiment outranciers. C'est la raison pour laquelle les costumes d'ABBA étaient tels qu'ils étaient dans ces années-là, parce qu'il fallait vraiment, pour qu'ils passent en frais comptables, qu'ils soient vraiment outranciers, d'où les trucs vraiment très...
voilà. C'est là où on voit qu'il y a des gens qui... Parce que par exemple, Madame Hidalgo, elle, c'était pas des trucs outranciers qu'elle achetait.
Non, ni Madame Hautefer,
oui,
celle qui a besoin d'être bien sapée.
C'est bien sapé. Alors, je vous explique un petit peu que je place. Donc, un gouvernement d'extrême gauche. Giscard crée le système monétaire européen qui était l'ancêtre de l'euro, si vous voulez, où les monnaies restaient les unes par rapport aux autres, sauf quand elles ne le restaient pas parce qu'il y avait une dévaluation, donc ça crée une crise financière, etc. La Suède rentre là-dedans. Et puis, l'Allemagne se réunifie. Monsieur Kohl prend un Deutschmark égale un Ostmark. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait été ce qui met la Bundesbank, qui à l'époque était indépendante, dans une rage folle.
C'est-à-dire qu'elle met l'Allemagne de l'Est
au même niveau, elle augmente la masse monétaire du montant de Ostmark, qui était une monnaie dont personne ne voulait, quoi. Donc c'est une augmentation de la masse monétaire, et c'est une façon de marcher sur les placements de la Bundesbank, qui attrape un coup de sang, avec ce cher Karl Otto Pöhl, que je regrette tous les jours, qui était tellement sympathique. Un Allemand comme on les aimait, vous savez, avec le sens de l'humour, dur, froid, méchant, enfin bref, tout ce qu'on aime. Et Karl Otto Pöhl attrape un coup de sang et décide de mettre les taux d'intérêt en Allemagne réel, c'est-à-dire après inflation, à 5%, pour éponger cette masse monétaire, tu vois, qui avait été créée. Dans...
Cela dit, de toi, moi, il avait guère de possibilité de faire autre chose.
Oui, il aurait pu se coucher, puis faire comme tout le monde et ne rien dire, mais là, c'est... Bon, il monte les taux d'intérêt à 5%. Du coup, comme tous les autres pays devaient payer plus que l'Allemagne, les taux d'intérêt, par exemple, en France, en Suède, en Italie, etc., monte à des taux réels de 6%. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en 92, on a une vraie crise du système monétaire européen. avec l'Italie, la Suède et la Grande-Bretagne qui sortent de l'euro. Tu sais, c'était le moment où Soros a fait son coup sur la Banque d'Angleterre. Et nous, comme on avait un génie profond qui s'appelait M. Trichet, qui était responsable, on décide de rester. C'est-à-dire qu'on a trois de nos principaux concurrents qui dévaluent massivement, et nous, on reste là où on est. C'est-à-dire que ça a été le début de la fin de l'industrie française. Et le plus étonnant, c'est qu'à Maastricht, il y avait une réunion des ministres des Finances, etc., européens, où Balladur était, et Balladur avait accepté de sortir de l'euro aussi. Et puis, Trichet, dans l'avion qui les ramenait, l'a réussi à l'empêcher de le faire, et c'est là que Balladur a perdu l'élection présidentielle, littéralement, parce que...
Incroyable.
C'est, tu vois, c'était... Bref.
À quoi ça se joue, parfois?
À quoi ça se joue, c'est... Donc, vous trouvez avec un pays qui a des déficits extérieurs, des déficits intérieurs monstrueux, une dette monstrueuse, un service de la dette monstrueux qui est la Suède à l'époque.
Combien ils avaient à peu près en service de la dette, histoire qu'on compare par rapport à
notre
situation?
C'est-à-dire qu'ils avaient 70% de dette, mais les taux d'intérêt étaient à 15%.
Ah oui, donc ils avaient moins de dette que nous, parce que nous on est à 110%.
Ça, mais ils ne payaient pas 3%, ils payaient 15%.
Voilà.
Mais ça les étranglait pareil. Hein.
Ah bah ça veut dire que toutes les liquidités après servent à l'étranger.
Alors aussi curieux que ça paraisse, au moment où tout ça se passait, j'étais dans les bureaux... du gouverneur de la Banque Centrale suédoise, qui était très sympathique d'ailleurs. Je ne me souviens plus de son nom, il s'appelait Anderson, celui-là aussi. Je ne sais pas comment il s'appelait, mais enfin, il était très sympa. Et il était dans tous ses états de bonheur.
Ah.
Parce que, enfin, les marchés sanctionnaient les politiques.
Eh bien, nous aussi, on aimerait bien, très honnêtement. Aimerait... Moi,
mais ils
ne
peuvent pas,
moi...
avec la BCE, ils ne peuvent pas.
Je sais, mais là, on a, par exemple, cette semaine, les taux...
Ont monté un petit peu.
Un petit peu, mais on emprunte plus cher sur les marchés. On commence à emprunter de plus en plus cher,
plus cher. Mais surtout, ce qu'il y a de grave, c'est que les taux, on est à 3,40 ou je ne sais pas combien. Ça commence à être au-dessus du taux de croissance de l'économie française, c'est-à-dire qu'on rentre dans une trappe à dette. C'est-à-dire
mais
que
on
ça...
est rentré depuis un moment, parce que la croissance qui est manipulée, qui nous explique un 1,5, on ne l'a pas.
On ne l'a pas.
Puisqu'elle est tenue par le public, et donc on est dans une trappe à dette.
Mais là, elle ne fait que s'accroître. Donc, on revient à la Suède, et à ce moment-là, ils sortent de l'euro... Arrive la période intermédiaire entre 1992 et 2000 où se prépare, ils sortent de l'USME, pardon, où se prépare l'euro. Toutes les élites, c'est là, se disent, il faut absolument rentrer dans l'euro, sinon on est foutu, etc. Ils font un référendum, ce que nous on n'a pas fait d'ailleurs, pour l'euro, ça aurait été une bonne question. Ils font un référendum et à la stupéfaction générale, le peuple suédois décide qu'il n'est pas question d'entrer dans l'euro. Donc, tout le monde dit la Suède est foutue et tout. Ils ne vont pas participer à cette merveilleuse aventure européenne. Et depuis, ils cessent de prospérer. Alors, je vais vous montrer un petit peu maintenant l'évolution contrastée de la France et de la Suède. C'est-à-dire, je vais vous montrer les décisions qu'a prises la Suède, les décisions qu'a prises la France, avec une série de graphiques. Mais d'abord, on va commencer par les résultats. Alors, le premier graphique que vous allez voir apparaître sur votre écran... C'est un graphique de la production industrielle. Donc, vous avez la production industrielle française et la production industrielle suédoise, et vous voyez que de 1970 à 1992, c'est exactement pareil.
Oui, on tâtonne.
Y en a un qui monte plus que l'autre, mais enfin, c'est équilibré. Bon, la Suède sort du SME, nous y restons. Et la Suède ne rentre pas dans l'euro, et nous y rentrons. Regardez la production industrielle suédoise, qui est la ligne jaune, par rapport à la production industrielle française, qui est la ligne bleue. C'est-à-dire que cette espèce d'identité de croissance s'arrête net. C'est comme si... c'est comme quand l'astéroïde est tombé sur les... Et donc vous vous dites, ben tiens, qu'est-ce qui est arrivé à la France entre 1990 et 2000 ? Ben, c'est M. Trichet qui nous force à rentrer dans le SME, qui nous force à rester dans le SME, qui nous met ensuite dans l'Europe. C'est là où il a commencé à détruire l'industrie française. Mais ça passe, comme on est resté dans l'euro, de l'euro après, ben, la destruction a continué. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'euro a coûté à la France, si je prends l'exemple de la Suède, si la France avait suivi une politique semblable à la Suède, quelque chose comme, je vérifie parce que c'est pas évident, la Suède, nous on est à 115 de production industrielle, la Suède est 100 à 80, ça nous coûtait 65 points de production industrielle. L'euro et le SM, monsieur Trichet, nous a coûté 65 points. Mais ce qui veut dire autant d'impôts, autant de boulot, autant de... Il n'y aurait pas de déficit si monsieur Trichet n'avait pas été là, quoi.
Sans compter que là, on voit très bien, si tu veux, si on regarde d'une période de 75 à 94, que on était sur des productions en numéraire qui étaient relativement comparables.
Tout à fait.
Ensuite, les Suédois, eux, rentrent dans la mondialisation. Effectivement, des IKEA, mais nous, on n'y est pas rentrés.
Ben nous, on n'y est pas arrivé. On a été détruits par la mondialisation parce qu'on n'a jamais été compétitifs.
En plus, on n'a jamais été compétitifs, donc on n'a pas pu rentrer dans le monde d'aujourd'hui.
On est rentré dans le monde d'aujourd'hui qui nous a détruits.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a dit... Vous allez...
On a merdouillé autour.
Ce qui s'est passé, c'est que toutes les entreprises qui étaient, par exemple les entreprises françaises qui faisaient concurrence à des entreprises suédoises, ben, elles ont fermé. Elles ont fermé, c'est tout. Quoi. Elles n'étaient pas compétitives parce que M. Trichet a tout fait pour qu'elles ne soient pas. Et alors ça se voit dans un autre endroit... Vous prenez la bourse suédoise et la bourse française, les indices, dividendes réinvestis, en dollars dans les deux cas, parce que c'est les statistiques que j'ai, donc dans la même monnaie. Et vous voyez que de 1970 à 1992, bah, la performance était la même, encore une fois, comme les bonnes. Et puis depuis, la bourse française est passée donc de où elle était à 100 là à 1168, tandis que la bourse suédoise passait à 3600. C'est-à-dire qu'ils ont fait trois fois mieux que nous en bourse.
Incroyable.
Ce qui veut dire que comme ils ont des systèmes, ils ont établi à ce moment-là des systèmes de retraite par capitalisation, ben ils n'ont aucun problème.
Ah ben non. Ni pour leur retraite, ni pour trouver des placements, des capitaux pour les retraites. Et j'imagine que quand tu es un entrepreneur en Suède, tu dois avoir un accès au capital beaucoup plus aisé que pour
et
nous.
Alors, je fais une petite digression là-dessus. Comment les retraites étaient payées autrefois en Suède, jusqu'en 92, c'était des systèmes... littéralement de répartition qui passait par le marché obligataire. C'est-à-dire qu'il y avait un gros fonds de pension qui s'appelait AP Funden, qui était d'ailleurs un de mes clients à l'époque. Le AP Funden, bon, il a acheté à peu près toutes les il a acheté à peu près toutes les obligations émises par le gouvernement suédois.
D'accord, ok.
Puis ensuite, ben, ils payaient leur retraite avec ça, quoi. Tu vois,
très bien. Et combien donnait de l'obligation suédoise?
À l'époque, ça donnait à l'époque, ça montait jusqu'à 13 ou 14%.
Ah, ben oui, donc ça se passait bien pour elle.
Ça allait à peu près, mais en même temps, avec la démographie et tout, c'était pas divin. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en 92, ils ont dit, bon, mais ça marche pas du tout. On va casser cet énorme AP Funden en 5 ou 6, je crois, gros. AP Funden
locaux
et spécialisés.
D'accord.
Il y en a un qui était très conservateur, l'autre qui était très agressif, etc. Chaque citoyen suédois choisit son AP Funden. Et s'il ne voulait pas choisir, il y avait un sixième AP Funden dans lequel on mettait ceux qui ne voulaient pas choisir, et puis mais qui était bien géré aussi.
Voilà, suivant que tu voulais avoir une gestion agressive ou bon père de famille, tu choisissais ton AP Funden.
Ou celui-là que tu avais 50 ans ou 30 ans.
Oui, c'est pas la même prise de risque.
Pas la même prise de risque, tu fais 100 moins ton âge, donc c'est à peu près ça. Donc, et à ce moment-là aussi, s'est développé en Suède un très gros marché de capital risque. Parce que les AP Funden devaient avoir une poche capital risque qui allait dans les... Donc, si tu veux... avec ton frère, on a à deux reprises financé des entreprises suédoises, Ecowin et ensuite Macrobond, qui cherchaient des capitaux. Et bon, elles sont venues nous voir, on les a prises, et ensuite, 4-5 ans après, on les a vendues, et ça a très bien marché. Donc, ils ont intégré le marché des capitaux à la retraite. Et donc, aucun problème de retraite, ils vont très bien, ils sont tous sur... Donc, tu te dis... Alors, on va continuer à voir l'évolution, on va passer au graphique numéro 3, de la Suède. Alors on va regarder un petit peu. J'ai toujours mis la France en bleu et la Suède en jaune, parce que voilà, c'est comme ça. Le bleu et jaune, c'est le drapeau suédois. Hein. Donc je me suis dit, tiens, on va faire un petit clin d'œil. Alors on prend situation budgétaire, hors service de la dette, Suède et France. Alors vous voyez, en 92, un déficit budgétaire qui atteint des niveaux absolument extravagants. Ça, c'est en pourcentage du PIB, hein, qui atteint donc 12,5% du PIB. C'est pour ça que ils ont quasiment fait faillite. Le FMI n'était pas à la maison, mais c'était tout pareil, quoi. Et nous, en France, à ce moment-là, on a déjà un gros déficit, puisque on est resté dans l'euro, etc. Donc vous voyez que la France, qui est en bleu, a toujours été en déficit depuis 1992. De temps en temps, ça se restreint, puis ça remonte, puis ça restreint. La Suède, ben, comme les affaires allaient bien, puisqu'ils avaient un taux de change qui était normal, ben, de temps en temps, ils sont en surplus, de temps en temps, ils sont en déficit, de temps en temps, ils sont en surplus. Alors, quand il y a un déficit, ben voilà, il y a un déficit, puis ensuite, Et alors, vous voyez aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'en 2020, quand il y a eu le Covid, nous, on a fait des bêtises grosses comme nous, hein, vous vous souvenez, là. Les Suédois, eux, ils n'ont rien fermé du tout.
Oui, bah oui.
Parce qu'ils avaient un homme qui était responsable dans la constitution suédoise de prendre des décisions sur les pandémies. Et c'était pas le roi, c'était pas le premier ministre, c'était un vrai spécialiste, c'était le docteur Raoult du coin, tu vois, c'est là. Qui leur a dit, c'est complètement idiot, quand il y a une pandémie, de mettre les gens dans les mêmes pièces, de les enfermer. Donc on ferme rien du tout. Et du coup, à la place d'avoir un déficit qui s'est crevé de façon épouvantable, ils ont un petit déficit, puis depuis sa part, ils sont en surplus. Donc vous voyez l'évolution. Et alors, on voit aussi autre chose. On passe maintenant à la Suède, les comptes courants, vous savez, la balance commerciale. Vous voyez qu'ils étaient dans une situation à peu près aussi, si j'ose dire, merdique que la nôtre, de 1975 à 1995. Et puis, comme nous, on a une... excédent des comptes courants, parce que c'est le moment où l'Allemagne importe comme des folles à cause de la reconstruction de l'Allemagne de l'Est. Voyez, tu vois, donc on a la ligne bleue est là, puis nous maintenant on est en déficit, et on est en déficit d'à peu près 1% du PIB, ce qui n'est pas énorme. Mais par contre, la Suède est en surplus de 5,5 ou je ne sais pas combien. Donc tu vois l'extraordinaire changement de la Suède qui était mal gérée par des socialistes et qui devient bien gérée, qui du coup développe des comptes courants qui sont équivalents à ceux de l'Allemagne, même à ceux de la Suisse, c'est pas croyable. Et ils n'ont plus de déficit budgétaire. Donc, on continue, on avance doucement. Pourquoi ça s'est passé? Alors, quelle est la raison profonde du succès de la Suède? Ben, c'est que la Suède s'est dit, dans le fond... Les seuls qui créent de la valeur, c'est les entrepreneurs, c'est les entreprises. On les a empêchés de se développer, donc ça n'allait pas du tout. Et nous, on n'a jamais fait cet aggiornamento.
Ben, si tu veux, c'est très drôle, parce que quand tu... Enfin, drôle, non. Mais quand tu écoutes les plateaux télévisés des uns ou des autres, ou les quelques économistes ça et là, ils partent toujours de l'idée que la croissance naîtrait de la consommation.
Voilà.
Alors,
Ce qui est une imbécilité.
Au lieu de se dire justement ce que vous devez, si vous devez retenir quelque chose, c'est bien ça, c'est que la croissance naît de l'entrepreneur. C'est lui qui va, par un produit, par une invention schumpeterienne, ou quelquefois on est dans des croissances ricardiennes, mais toujours est-il, proposer quelque chose à un instant T, et de là... Ça va créer
une amélioration,
et de là il va y avoir consommation, et de là il va y avoir aussi création d'emplois.
Et par un emploi, voilà. Alors.
Mais ça n'est pas l'acte de consommation. Donc aujourd'hui, quand on vous dit il faut flécher les dépenses de l'État, flécher les dépenses
des consommateurs,
flécher les dépenses du consommateur. Mais c'est déjà, encore une fois, chapitre sur les baraques à frites et sur ces gens-là qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais au-delà de ça, je vous rappelle qu'on est aujourd'hui dans une économie mondialisée. Donc quand on vous dit il faut flécher la consommation, je ne vois pas en quoi permettre aux gens d'acheter plus d'iPhone et des baskets. Nike va véritablement relancer l'économie française.
Absolument, c'est
tout. Et on ne peut pas non plus parler protectionnisme en disant achetez s'il vous plaît de la chaussure française, quand on ne peut pas forcer les gens à acheter des chaussures qui sont 5 fois plus chères et pas forcément de meilleure qualité.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Suédois ont fait l'analyse fondamentale que le problème, c'était que les entreprises suédoises ne gagnaient pas assez d'argent.
La marge brute d'autofinancement.
Et que nous, on n'a jamais fait ça. Alors regardez, Qu'est-ce qu'ont fait les Suédois? Ben, ils ont pris un certain nombre de décisions. Par exemple, ils ont complètement réformé le système d'enseignement, ils ont complètement réformé le système hospitalier, ils sont passés aux retraites par capitalisation, ils ont réformé le système de transport, ben, en coupant à chaque fois dans les dépenses étatiques. Hein. Ce qui fait que la marge brute d'autofinancement en Suède, depuis 1992, elle était passée de 17%, ce qui est misérable, en pourcentage du PIB. Elle est remontée à 23 et depuis, elle bouge cycliquement autour de 23. Tu vois, c'est donc il y a eu les grandes réformes de 92-93 qui te font péter la hausse, les réserves. Et puis depuis, ça reste très bien à 23%. Alors qu'est-ce que c'est que la marge brute d'autofinancement? Je vais le répéter une fois de plus. Vous êtes entrepreneur, vous payez tout ce que vous devez payer, et c'est ce qui vous reste quand vous avez tout payé. C'est-à-dire, c'est à la fois les profits plus l'amortissement des dépenses en capital. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, les entreprises suédoises disposent d'un cash flow libre, ils en font ce qu'ils veulent, c'est la décision de l'entrepreneur de l'investir comme il le veut, d'à peu près 23% du PIB, ce qui est bien. Quand on regarde la France, nous on est de la ligne bleue, ben, on passe de 28%, ce qui était très bien en 1980, de 24%, 24%, et aujourd'hui, on était en train de tomber 20%. Donc, la Suède est montée de 5 points, pendant que nous en perdions 4. Incroyable. C'est-à-dire que la décision prise par les Français, dans chaque crise, c'est les périodes assurées grises que tu vois ici, c'est les récessions en Europe, c'est de faire payer les sociétés. Et tu vois que, dans chaque crise, on a tendance à baisser, on fait payer les sociétés, et dans les crises en Suède, elles n'ont aucun effet sur le marge brute d'autofinancement. C'est-à-dire que ce que la Suède a décidé de faire, c'est de dire il est vital que nos sociétés soient rentables. Comment on va faire pour arriver à ce résultat? C'est que la variable d'ajustement, ce ne sera pas les profits des sociétés, mais le taux de change. C'est-à-dire que si ça va mal en Suède, le taux de change se pète la gueule.
Mais oui, parce qu'eux, ils peuvent faire quelque chose comme ils ont encore leur monnaie.
Ben voilà, et tandis que nous, la variable d'ajustement, c'est pas le taux de change, puisque c'est interdit maintenant, c'est le profit des sociétés. C'est-à-dire que dans chaque crise, on tombe plus bas. C'est une analyse économique. Donc, la raison principale du succès de la Suède, c'est que les entreprises suédoises gagnent de l'argent parce qu'elles opèrent dans un marché libre où les taux de change sont libres, où les taux d'intérêt sont libres, etc. Et que nous, on perd de l'argent parce que l'État a décidé, les gens de l'État ont décidé que quand il y avait une crise, c'était les sociétés qui devaient payer. Et si je peux me permettre, quand on a été viré du paradis, les anges, le Seigneur nous a pas dit consommez, puis vous verrez après, ça va se développer tout seul. Il nous a dit vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front. Et donc, les Suédois, ils gagnent leur pain à la sueur de leur front, et nous, on consomme, dans le fond, l'épargne que nous ont laissé nos parents, nos grands-parents, etc. Et ça va mal se terminer.
C'était travailler et prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
Ça, c'était de la fontaine. Alors, du coup, regardez les PIB en volume que j'ai mis tous les deux, bassant, c'est la même graphique que celui sur la production industrielle. Mais c'est extraordinaire. Vous voyez à quel point, dans le fond, on a le même PIB, la même croissance, etc., jusqu'en 95, 96, 97, et puis à partir du même, là, pouf, la Suède décolle. Et je vous montre ce graphique parce que, vous voyez, les Suédois ont pris des décisions à partir de 92. Ouais. C'est littéralement 20 ans après que vous commencez à voir la différence. Ouais. Et vous voyez que les Français ont pris des décisions, et c'est 20 ans après que vous commencez à voir la différence. Donc vous avez une espèce d'inertie dans les systèmes de production. C'est exactement comme des paquebots. Il faut une journée pour faire tourner un gros tanker, quoi. Il est là. Ben. Et les hommes politiques en France refusent de prendre la durée dans leur calcul. C'est-à-dire que ce qui n'a pas d'effet pour les élections cantonales de la semaine prochaine, ça n'a aucun intérêt. Et quand je vois ces graphiques, vous voyez, je vois les mêmes graphiques sur la Chine, vous vous rendez compte que les hommes politiques qui prennent en compte la durée, combien de temps ça va prendre, etc., réussissent. Les gens, comme le faisait Mme Thatcher, les gens qui, dans le fond, veulent gagner aux élections, ils perdent. Et c'est ce qu'on dit, un homme d'État, c'est celui qui pense à ses petits-enfants. Un homme politique, c'est celui qui pense à l'élection.
L'élection d'après.
L'élection d'après. Et aujourd'hui, on a sont même pas des hommes politiques, je sais pas comment on peut les appeler, c'est des pantins.
C'est des gens qui occupent... tu sais, moi j'ai le sentiment à notre époque que pour une grande partie du personnel politique, c'est des comédiens ratés.
Ils pensent qu'ils sont dans les médias.
Oui, oui, c'est ça.
Ils veulent qu'on parle d'eux.
Ils veulent qu'on parle d'eux et c'est juste qu'ils n'étaient pas assez beaux pour être acteurs. Quoi.
J'ai vu le jeune Attal à la télévision, je me suis dit, mais comment ce type a-t-il pu être Premier ministre? Mais qui Il faut être débile, quoi. Déjà, Raffarin, c'était pas terrible, mais alors Attal...
Non, mais attends, à côté Raffarin, c'était le top niveau. C'est-à-dire que là, tu as l'impression d'avoir un délégué de classe de seconde 3 qui passe en conseil de discipline
et qui comprend pas ce que veut le
proviseur. Et qui était à une soirée Halloween avant et qui s'est pas démaquillé les yeux. Je comprends jamais ce que je vois quand je le vois, moi.
Non, c'était un peu... Alors...
Ou alors, il était dans le groupe Indochine, je sais pas, mais il a toujours le dessous de l'œil, là, comme maquillé, avec des yeux complètement exorbités, comme s'il n'avait pas dormi. C'est très étrange.
Alors, comment a réussi à faire la Suède? Ben là, c'est un graphique un peu compliqué, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Le taux de change suédois varie librement. Il n'est pas fixé vis-à-vis de quoi que ce soit.
Comme faisait le franc avant.
Comme faisait le franc avant, on était tranquille. Et c'est merveilleux, parce que quand... Il y a un pet exogène qui arrive. Bon. Si le taux de change reste très élevé, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est fixé. Ben, à ce moment-là, si tu veux, celui qui prend le choc, c'est automatiquement la rentabilité des entreprises. Tandis que si le taux de change baisse, par exemple une hausse des prix du pétrole très forte, le taux de change baisse, ben, à la limite, c'est tout le monde qui prend la gamelle, y compris le consommateur, tu vois, son essence lui coûte plus cher, etc. Donc, le taux de change, c'est un merveilleux amortisseur de la rentabilité des entreprises, en particulier des entreprises exportatrices qui sont souvent les plus importantes. Donc, tu te dis, comme la Suède avait un taux de change variable et que nous, on avait un taux de change fixe, il est probable que le taux de change suédois a baissé vis-à-vis du taux de change français, et que c'est de là d'où vient l'excès de compétitivité de la Suède. Alors on regarde le graphique là qui s'appelle taux de change couronne suédoise euro ajusté pour la différence des taux d'intérêt, et en bas c'est la ligne bleue, donc on est passé en effet de 9 couronnes suédoises, 9,14 on a baissé, et donc non, on est passé de 0,14 à 0,9, donc vous voyez, on a baissé.
Oui.
Mais les marchés sont bien faits. Hein. Si toi, tu te dis donc la couronne suédoise va baisser, je ne vais acheter de la couronne suédoise que si elle me donne des intérêts plus élevés que les taux d'intérêt français. Parce que sinon, je n'ai pas de raison d'en avoir, non. Donc automatiquement, les taux d'intérêt en Suède, courts en particulier, sont un peu plus élevés que les taux d'intérêt français. Et si tu regardes donc le mix taux d'intérêt-taux de change, qui est la ligne jaune en haut, tu vois que c'est complètement plat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la couronne suédoise, il faut en acheter si on est français, mais vous voyez que vous n'avez pas eu de tendance. La tendance bleue de baisse n'existe pas. C'est-à-dire que les marchés... dans leur grande sagesse, compense avec les taux d'intérêt les taux de change.
Oui.
Mais ça veut dire que du coup, que, comme les taux d'intérêt en Suède sont un peu plus élevés, ils vont épargner. Et cette épargne, ils vont l'investir dans les entreprises, ce qui va faire monter la bourse. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que nous, si on donne des taux d'intérêt à zéro...
Les gens consomment, ou alors ils vont tenter de placer à l'étranger pour essayer de faire...
Ou alors ils vont se mettre sur des trucs complètement dangereux, comme je ne sais pas quoi.
Oh, bah ça, ce n'est pas de leur faute, c'est leur conseiller bancaire, les pauvres.
Oui, c'est les pauvres, et s'ils en ont.
Bah oui, mais donc, tu as 3,50 francs,
vous voyez,
te met
quand
dans
vous
un PEL.
Vous intervenez dans les marchés financiers, vous intervenez dans les marchés, et vous arrivez à des résultats imbéciles, c'est-à-dire que, dans le fond, ça favorise l'épargne à l'investissement en Suède, et ça empêche l'épargne à l'investissement en France. C'est pour ça que
votre fille est sourde.
C'est pour ça que votre fille est aveugle ou sourde, je ne sais plus comment on disait. Donc, c'est extraordinaire de voir la vanité de ces gens-là qui pensent qu'ils peuvent, dans leur grande sagesse, parce qu'ils ont fait je ne sais pas quelles études, intervenir sur des marchés où des millions de gens expriment leur préférence. Tu vois ce que je veux dire ? Tu empêches ces gens d'exprimer leur préférence, c'est que, dans le fond, c'est un déni de démocratie. Tu vois, entre voter ou mettre un billet de banque dans un tiroir caisse, c'est le même geste. Hein. C'est, tu votes avec ton pognon. Là, ils t'empêchent de voter en fonction de ce que tu préfères. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Et très souvent, ces pays-là sont aussi des pays où on se retrouve avec des gens qui t'empêchent de parler. Mmh. Ou qui te mettent dans des camps. Ou qui, tu vois ce que je veux dire, c'est, ça va assez vite. Donc, on continue à avancer. Donc la Suède a décidé, en 92, que décidément l'État était trop gros. Donc elle va prendre des mesures pour faire baisser le poids de l'État dans l'économie. Par exemple, elle va complètement transformer son système d'enseignement, qui était une énorme pyramide comme l'éducation nationale, et y créer le ticket éducation. Donc chaque famille reçoit un ticket à présenter à l'école de son choix. Ce ticket est honoré par les impôts locaux. C'est les municipalités, et si cette famille décide de créer une école, ils peuvent le faire librement. Et puis ils auront droit à des tickets.
Et... voilà, et la seule chose, c'est qu'il y a, je crois, tous les trois ans, un contrôle au niveau national
De la qualité de l'école.
Voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, les enfants sont convoqués comme une sorte de brevet national.
Voilà. Et on vérifie qu'ils ont appris. Il y a un programme.
Il y a un programme. Et on a appris que l'école locale, donc composée passiblement de cette famille, a bien appris à l'enfant à lire, écrire, compter ou le programme d'histoire et de géographie. Et ils ont bien sûr un examen national, l'équivalent du baccalauréat, qui est malgré tout un an plus tard que le nôtre, parce que aussi il faut prendre en compte le fait
Les enfants jusqu'à 5-6 ans, ils ne vont pas à l'école. Hein.
Non,
ils
vont
pas bien la paix.
Et aussi l'hiver est beaucoup plus assuré, parce qu'il y a des moments où effectivement, certains coins, tu ne peux pas le sortir. Ils ont des énormes congélateurs, et parfois tu ne sors pas de chez toi à cause de la neige pendant 10 jours.
Hein, oui, ça peut arriver. Surtout dans le Nord. Et donc, vous voyez que cette décision... Alors, ils ont reformé leur système de transport, ils ont réformé leur système hospitalier, toujours selon des systèmes de décentralisation, de subsidiarité, etc. Bref, ils ont... Et vous voyez que le poids de l'État dans l'économie suédoise passe de 65 en 1992, ce qui était très, très, très élevé, c'est beaucoup plus élevé qu'on était aujourd'hui, d'ailleurs, en France, à 48. Donc vous voyez cette espèce d'immense dégringolade du poids de l'État. Pendant que nous, on passe de 50 à 52. Bon, c'est pas... Mais ça, c'est... Je ne compte pas là-dedans les frais financiers. C'est-à-dire, je regarde les dépenses de l'État et les recettes de l'État sans compter le coût de la dette.
D'accord.
Tu vois, parce que le coût de la dette, c'est autre chose. C'est quelque chose que t'as pas le choix, tu vois, c'est pas... Ça, c'est volontaire, la dette, c'est le résultat de ce que t'as fait dans le passé, quoi. Donc, en fait, la France, aujourd'hui, elle est pas à 50...
T'es 49...
54,7.
54,7,
ouais. Elle est plutôt à 58, avec la dette.
Avec la dette.
Avec la dette, donc on est passé, en fait, voilà. Parce qu'à l'époque, la dette, en 87, était faible. Donc... Vous voyez que la Suède, ça a été une décision volontaire de faire baisser le poids de l'État dans l'économie. Et je veux montrer souvent dans le passé que la ligne jaune qui baisse, ça veut dire la marge brute d'autofinancement qu'on vous a montré il y a 5 minutes, qui monte. Parce que moins l'État coûte, plus la marge des sociétés monte.
Oui.
Et vice-versa. Donc nous, la hausse de l'État, c'est ça qui a créé la baisse des rentabilités des entreprises. Et eux, la baisse du poids de l'État, c'est ça qui a créé la hausse de la rentabilité des entreprises. Donc c'est une décision volontaire de favoriser le secteur privé. Le secteur public étant devenu complètement obèse et ne servant plus à rien, quoi. Et ça a été fait par des gens de gauche. Hein. C'était plutôt des sociodémocrates. Il y a eu quelques conservateurs au milieu, mais ça a été fait systématiquement par des gens de gauche. C'est... Et les gens ne meurent pas dans la rue, si tu veux, c'est pas de faim dans la rue. Il y a... Les hôpitaux marchent bien, les écoles marchent bien, enfin, il n'y a pas de... Alors, on en arrive au sujet suivant, qui est, ben, maintenant, regardons la dette en pourcentage du PIB dans ces deux pays. Mmh. Ben, la France, depuis l'arrivée de l'euro, est passé de 60% de dette à quasiment 120.
Oui, on est à 119, je crois.
120, donc on a doublé la dette en pourcentage du PIB. Et chaque fois qu'il y a une récession, vous voyez les périodes assurées.
On l'a financée par la dette.
On la finance par la dette. Alors que la Suède, elle, eh ben, elle est passée de 70, ça a diminué de moitié. Et donc aujourd'hui, vous regardez, ils n'ont aucun problème à financer leur dette.
Évidemment. Quand elle est à 33% du PIB, tout se va bien.
Et du coup, pour la première fois depuis des années, très longtemps, la Suède emprunte moins cher que la France.
Bah oui.
C'est-à-dire qu'en 1992, la Suède, les taux d'intérêt étaient à 250 points, c'est-à-dire 2,5 points, au-dessus de la France. Et aujourd'hui, la Suède est à 80 points en dessous.
Ouais.
C'est-à-dire que tous ces cadeaux faits aux miséreux en France, etc., ça finit par leur coûter très cher. Aujourd'hui, les systèmes sociaux en Suède sont tous en équilibre.
Et pourtant, ils ont une émigration pas vraiment contrôlée, dont ils commencent à...
Ils commencent à les repousser un peu.
Parce qu'il est vrai qu'il y a une émigration du côté de Göteborg et en dessous.
Oui, voilà, ça c'est... Et surtout à Malmö, c'est...
Malmö, c'est plus bas quand tu vas vers
presque
le...
Arrives presque au Danemark là-bas.
C'est sur le pont, après le pont. Et ils commencent à dire ça suffit.
Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas des Suédois.
Ils sont arrivés au seuil où l'intégration ne se faisait plus et où il n'y avait pas aussi forcément des volontés d'intégration de la part du peuple exogène.
Donc il y a ça qui arrive. Et alors, donc, vous voyez, ils n'ont aucun problème de dette, ils n'ont aucun problème de commerce extérieur. C'est-à-dire que je dis aux gens, si vous voulez avoir... Vous avez deux monnaies que vous pouvez acheter en Europe. C'est le franc suisse et la couronne suédoise. Alors, il y en a une qui est trop chère, l'autre qui n'est pas assez chère. La couronne suédoise est sous-évaluée par rapport au franc français. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc, pour ceux à qui s'intéressent à des placements monétaires à court terme, se mettre en couronne suédoise quand on est français, c'est pas idiot, parce que t'achètes une monnaie d'un pays qui est bien géré et qui est sous-évalué.
Oui, donc what could go wrong?
Tu vois, donc,
le système d'exploitation et le système opérationnel fonctionnent tous les deux.
Exactement, ils n'ont pas foutu leur système opérationnel. Et alors, quand vous vous rendez compte que ça se passe? Vous savez, j'ai toujours dit qu'un système capitaliste, vous avez les épargnants... Vous avez les entrepreneurs, les épargnants, c'est des craintifs. Les entrepreneurs, c'est des fous profonds qui prennent des risques pas possibles. Et la façon dont le système capitaliste a réussi à se développer dans l'histoire, c'est pas difficile, c'est qu'on a mis au milieu les banques qui mutualisent le risque. Tu vois, elles te disent aux craintifs, là, je vais vous donner du 2%, et puis elles empruntent elle prête à 6% au fou, là, et elles font la différence, et c'est ce qui leur permet de marcher, tu vois. Donc, quand tu veux voir si un pays marche bien, dans le fond, ce que tu dois faire, c'est que tu dois regarder la performance des banques. Si les banques gagnent bien leur vie et tout, c'est que y a un bon équilibre entre l'entrepreneur et le rentier, et regarder la performance des banques européennes et des banques suédoises. Donc la ligne bleue, c'est les banques européennes, c'est l'indice des banques européennes, qui est plus bas qu'il n'était en 2000, qu'au moment de la... Donc vous êtes passé, mettons, si vous commencez à 100 en 2000, vous êtes à 205, les banques ont péniblement doublé, ce qui n'est pas terrible, en 25 ans. Et les banques suédoises sont montées de 12 fois. 12. Elles ont monté 6 fois plus. Que les banques. Donc, ça, tu te souviens peut-être j'avais dit que les marchés suédois des actions étaient montés 3 fois plus que le marché des actions. Mais les banques, elles sont montées de 6 fois plus.
C'est incroyable.
Ça prouve simplement que le système financier marche. La mutualisation du risque se passe à la satisfaction générale. Tandis que nous, nos banques, elles ont failli sauter, je sais pas combien de fois.
On sait pas combien de fois. Encore hier, elles ont pris un bras à cause de l'instabilité.
Cette imbécilité de l'euro, etc. Ceux qui ont ça empêché les banques de faire leur métier
d'allocation et de
mutualisation. C'est l'État qui s'est mis à le faire, il fait n'importe quoi comme d'habitude.
Comme d'habitude, s'il le savait, il serait pas là.
Et en Suède, ça continue à être fait par les banques. Et donc, on se rend compte que s'ils commencent à toucher au taux de change, à l'arrivée, les sociétés vont perdre du fric. Les sociétés perdant du fric, les banques vont plonger. Et à ce moment-là, ben, le système va s'arrêter de croître. La mutualisation du... C'est-à-dire qu'en France, ben, c'était pas plus bête de garder du cash, quoi. Et donc, c'est, tout ce que je montre ici, c'est que il y a eu d'un côté des gens qui comprennent comment un système économique fonctionne, les Suédois, tout en étant de gauche. Et vous avez de l'autre côté des gens qui pensent qu'ils savent mieux que les marchés, qui comprennent rien et qui font que des bêtises et qui amènent un pays au désastre. Mais alors, ce qui est très inquiétant pour la France, c'est que du coup, tous ceux qui devaient recevoir les crédits des banques, là, les entrepreneurs, ben, ils n'ont rien reçu du tout. Donc, ils se sont barrés. Donc, en fait, aujourd'hui, la France, on est dans une situation curieuse où il n'y a plus que les représentants de la classe entrepreneuriale n'existent plus puisqu'ils ne sont plus là. Ils sont partis.
Ouais.
On les a, on les a tués, ou ils sont partis. Et donc, on a une représentation politique qui est complètement faussée. On n'a plus que des corneaux de fonctionnaires qui prennent des décisions parce que tous ceux qui sont à l'FI, tous ceux qui sont, ils sont tous fonctionnaires. Monsieur le Mélenchon premier. Alors, on a fait ça en France toujours. C'est-à-dire que sous Louis XIV, on a viré les protestants.
Ouais.
Qui ont été faire la fortune de l'Allemagne, de la Hollande et de l'Angleterre. Les grandes familles industrielles en Angleterre étaient toutes au départ françaises. Courtauld, etc. Puis ensuite, on a fait ça avec les aristos, allez, à tout hasard. Mais aussi les scientifiques. On a coupé la tête à Lavoisier, très bien, tu vois. Donc on a fait la même chose. Puis ensuite, on a viré tous ceux qui étaient catholiques. Puis en 45, de 40 à 45, on s'est payé les juifs. Bon, c'était pas une bonne idée. Et aujourd'hui, on se paye les entrepreneurs. Donc on a l'impression que la classe dirigeante à Paris n'a qu'une idée, c'est de se débarrasser des gens compétents qui pourraient lui faire de l'ombre.
C'est le principe des goulags.
C'est le principe, oui. Ben si vous, c'est le principe du
goulag. T'envoies les mecs à lunettes.
Oui, c'était comme ça qu'ils tuaient les gars au Cambodge. Celui qui avait des lunettes, ça veut dire qu'il savait lire, et clac, on le tuait. Donc, il y a donc une haine de la part de la classe dirigeante française, de médiocre qualité, contre les entrepreneurs qui sont par définition des aventuriers, quoi. Bon, il faut mesurer ce que c'est, il faut être fou pour être entrepreneur. J'en parle en connaissance de cause, quoi. Et bien, c'est ça que notre pays va payer. C'est qu'à force de virer ceux qui gagnent 3 talents pour donner le talent à celui qui en gagne qu'un, si tu donnes les talents à celui qui l'enterre, ben, ça crée jamais de croissance, si.
J'ai envie de dire que, encore, s'il l'enterrait pour le retrouver, on s'en sortirait déjà bien. Mais il le perd.
Il le perd, lui.
Et il en emprunte un autre.
Lui, il ne sait plus où il l'enterrait, c'est vrai.
Il ne sait plus où il l'enterrait et il emprunte un autre qu'on va devoir rembourser.
Et un autre à l'étranger.
Voilà.
Un autre à l'étranger.
C'est encore pire que ça, la situation.
La situation est encore pire, tout à fait. Le Christ n'avait jamais imaginé qu'on allait perdre le talent ou qu'on allait l'emprunter à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Je voulais vous faire cette petite démonstration, c'est pour montrer que c'est faisable, qu'il faut simplement des gens qui aient la notion du temps, une espèce de consensus social, parce que les Suédois sont ainsi faits, si vous voulez, c'est ce que je dis toujours rigolant, vous prenez un Français individuellement, en général il est intelligent, il est brillant, etc. Vous prenez un Suédois, vous le trouvez un peu plan-plan. Vous mettez 6 Suédois dans une pièce, ils commencent à travailler les uns avec les autres. Vous mettez 6 Français, ils commencent à s'engueuler pour savoir qui sera, enfin bref.
Qui sera le chef.
Qui sera le chef.
Comment on fait les équipes.
Équipes et tout ça. Donc c'est absolument épouvantable. Donc la Suède est un pays qui, parce qu'il fait froid en hiver, je crois, si celui qui n'était pas d'accord pour coopérer en hiver, ben il mourrait de faim. Donc vous avez la sélection naturelle qui fait qu'ils sont naturellement coopératifs et qu'ils veulent bien travailler les uns avec les autres. Alors, si on accepte cette idée, ben, on se rend compte que le vrai problème qu'on a en France, c'est qu'on ne sait pas travailler les uns avec les autres et qu'on a des relations d'opposition
Mais oui, mais en même temps, si tu regardes la façon dont notre État nous a traités, en n'étant pas un partenaire, mais en opposition face à ceux qui créent, n'est-ce pas normal que les entrepreneurs réagissent avec défiance vis-à-vis de l'État ? Puisque temps après temps, ils ont été traités comme des pestiférés, le galeux, le...
Ben voilà. Encore une fois, je n'ai pas une affection particulière pour M. Arnault, qui a réussi de façon superbe. Mais mettons que ses débuts peuvent être un petit peu disputés.
Tu penses à Boussac ?
Oui. Mais il a fait un succès absolument gigantesque. Vous avez d'autres qui ont réussi pareil.
Il y avait ce bouquin assez intéressant qui s'appelait Les Grands Fauves, que j'avais recensé, qui reprenait justement aussi Bolloré et d'autres, c'est-à-dire ces hommes d'affaires que Tapie peut être cité aussi, c'est-à-dire des types qui, effectivement, on peut se demander ce qui se passait au tribunal de commerce dans des rachats à 1 euro à la barre dans des liquidations. Mais laissons ça de côté et voyons l'influence. Et
mais
le dynamisme
surtout,
que ces hommes avaient insufflé.
Alors, j'ai reçu un vieil ami récemment qui venait me demander un petit peu de l'aider, qui lui-même a pris des risques dans sa vie. Et donc, on a discuté. Je lui ai dit, on va faire ça. Et il m'a dit, ce qui est agréable avec toi, c'est que on vient de voir, tu dis oui ou non, et tu le fais tout de suite. Et c'est exactement pour ça que les entrepreneurs réussissent, c'est qu'ils prennent des décisions en n'ayant pas tous les éléments pour les prendre. Tu vois, en disant « Ouais, j'aime bien le gars, quoi, donc je vais l'aider. » Et donc, dans le fond, c'est ce que dit Raoult, que j'aime beaucoup. Il dit « Il y a les sociétés qui sont organisées sur l'obéissance et ceux qui sont organisés sur la compétence. » Et les entrepreneurs, c'est la compétence, et les fonctionnaires, c'est l'obéissance. Donc, la Suède, qui était une société fondée sur la compétence, s'était laissée aller à l'obéissance avec ses cornuettes socialistes. Les mêmes socialistes ont fait un 180 degrés, ont décidé que maintenant ce serait une société de compétences. Et ils ont tout organisé pour que ce soit le cas. Et tout le monde est heureux. Alors qu'en France, avec l'arrivée de Mitterrand qui fait passer la retraite de 65 à 60 ans, comme ça, alors qu'il savait que c'était une imbécilité, mais pour des raisons démagogiques, depuis, on ne cesse d'avoir, le poids de la société d'obéissance ne cesse d'augmenter. Quand vous voyez le poids de l'État. Donc en quelque sorte, en France, on favorise les obéissants et on défavorise les compétents. Ça se paye. Je crois que la note va être assez importante à payer. J'espère qu'une fois que ça sera produit, que la crise va se déclencher, bien à ce moment-là, peut-être les Français feront-ils le même chemin que les Suédois. C'est tout le mal que je nous souhaite.
On devra, en revanche, partir de beaucoup plus loin parce que, encore une fois, comme on a vu au début, la Suède, en bassant, était, je sais plus où était sa dette.
Oui, mais, elle était à 70, mais avec des taux d'intérêt qui étaient à 15.
Oui, c'est ça.
Mais avec des taux que, donc. Ils avaient du mal à payer, là, tu sais.
Et
nous, on est à 130 avec des taux d'intérêt à 3.
À 3. Mais,
C'est-à-dire que c'est à peu près pareil.
Ouais.
6. Voilà. Donc, voilà, donc, ce que j'essaye de montrer, c'est que ce qui nous arrive, ça n'arrive pas par hasard. Et si les Suédois s'en sont sortis, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a eu des décisions qui ont été prises dans les deux cas. Et que ces décisions ont leurs conclusions logiques.
Oui.
C'est pas un hasard. Il n'y a pas eu de mauvais, il n'y a pas eu un complot, il n'y a pas eu de. C'est juste que si vous payez pas les gens qui prennent des risques et si vous payez ceux qui foutent rien, ça finit par plus marcher, quoi. Mais ça prend du temps. Mmh. C'était extraordinaire. 92, mettons 95, allez, ça fait donc 30 ans. Donc, il a fallu 30 ans pour que ça devienne visible. Et il y a 30 ans, c'était Mitterrand. Donc, on paye les crimes des gens, mais en même temps, du passé. Mmh. C'est triste, mais c'est comme ça.
Ouais, voilà.
On n'a plus de marge de manœuvre.
Bon, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur, hein, c'est toujours pareil.
Absolument.
Mais bon, l'important, effectivement, dans ce que dit Charles, c'est que la Suède était pratiquement dans la même situation, si on remet les choses en perspective,
absolument,
et qu'ils ont réussi à s'en sortir. Donc, on a encore, on a toujours...
On sait ce qu'il faut faire.
Oui, enfin, eux, je ne sais pas s'ils le savent, mais nous, on le sait.
Non, mais eux aussi, je suis persuadé qu'eux aussi ils le savent, mais ils n'ont pas le courage politique.
Oui, ils n'ont pas le courage politique.
De le dire parce que, je ne sais pas quoi, on dirait qu'il faut faire payer les riches ou je ne sais pas quoi. Si vous faites payer les riches, prenons cette imbécilité. Les riches, c'est ceux
qui... taxes Zucman.
Les taxes Zucman. Payer les riches, ok, très bien. Les riches, c'est ceux qui ont le taux d'épargne le plus élevé. Donc, si on fait payer les riches, on prend de l'épargne qu'ils investissent eux-mêmes et en général bien pour la filer à des corneaux comme LFI. Eh bien, vous prenez encore une fois de l'argent à ceux qui ont créé trois talents pour le filer à celui qui n'a rien créé du tout. Et vous vous attendez à ce que ça donne des résultats. Donc, encore une fois, je ne connais pas un seul cas d'une solution budgétaire désespérée qui a été résolue par des augmentations d'impôts.
Je crois qu'ils ont fait ça en Norvège récemment, faire une sorte de taxe Zucman, et ils ont perdu 300 millions en courbe de l'affaire.
Tout le monde s'est barré.
Tous les hommes
d'affaires importants en Norvège se sont barrés. Et surtout, ils n'en avaient même pas besoin, puisqu'ils ont cette immense... fonds de garantie là, dans lequel ils ont, qui est le plus gros fonds du monde, dans lequel ils mettent l'argent pour les... Donc c'était juste punitif,
Mais là aussi c'est punitif. Enfin, on en a besoin si tu veux, bien entendu, mais si tu veux, le problème...
Mais il faut que les gens payent leurs impôts normalement, quoi. 20%, non, mais, ça va très
alors,
bien.
Alors, par ailleurs, le problème de la taxe Zucman, c'est que c'est toujours pareil, c'est des fenêtres d'Overton, tout ça, dans le débat public. Donc on déplace encore une fois la fenêtre d'Overton qu'on avait réussi pour une fois, nous, les libéraux, à mettre sur le fait que l'État dépense trop.
Et mal.
Donc, encore une fois, baissez vos putains de dépenses. Donc, on le disait, on le martelait. Et ils ont rebalancé la fenêtre d'Overton pour dire non, le problème, c'est les riches. Mais imaginons que nous taxions, ce qui ne marchera pas, les riches de 2%. Ça ne change rien, en fait, que ces connards doivent baisser leurs putains de dépenses.
Exactement.
Ça ne change rien à la question.
Ça ne change rien à la question. Mais ça ne peut... Vous savez, il y avait eu un jugement qui avait été fait au moment du canal de Panama... où il y avait eu des corruptions énormes en France, quand la France avait essayé de financer le canal de Panama et tout, et il y avait un juge qui était responsable, et chaque fois qu'il y a un homme politique qui était, dont on allait coincer, etc., il disait, la question ne sera pas posée.
Oui.
Donc le juge avait parfaitement dit, il y a des questions qui seront posées, puis des questions qui ne seront pas posées. Et là, la taille de l'État, le gaspillage dans l'État, etc., c'est la question qu'il ne sera jamais posée.
Mais là, qu'est-ce qui va se passer en pratique, ces petits malins ? C'est que tu sais qu'il y a un calendrier pour la loi de finances. Mmh. Elle doit être discutée, elle doit être amenée en Conseil des ministres avant le 13 octobre et elle doit être votée avant le 21 décembre. Mmh. On est hors délai. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer dans pratique ? Le budget va être reconduit, la loi de finances va être reconduite telle qu'elle de l'année précédente, ce qui veut dire qu'il n'y aura donc aucune baisse de dépenses et qu'ils peuvent trottiner tranquillement au budget 2026 avec le budget courant, alors qu'il aurait fallu faire des...
Je peux vous dire qu'il y a des budgets qui vont augmenter, c'est celui du service de la dette. Il va augmenter de 20 ou 30 milliards d'euros simplement parce que les taux d'intérêt sont en train de passer de 0 à 3 ou à 4. Ça se fait avec un effet de retard, mais on sait très bien que aujourd'hui, à 3300, si les taux d'intérêt, à un moment, dans les 5 ou 6 ans qui viennent, le service de la dette sera à 120 ou 130 milliards. Aujourd'hui, on est à 60. Donc ça va doubler. Donc il y a 60 milliards qu'il va falloir payer, dont 30 milliards à des gens à l'extérieur. Donc ça va détériorer nos comptes courants de 30 milliards. Donc on le sait tout ça, c'est déjà dans la boîte. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a plein de trucs dans la boîte et que chaque fois qu'on ouvre la boîte, on dit « Ah, quelle surprise !» Mais non, c'est là. Il n'y a aucune surprise. Rien de ce qui se passe en France ne me surprend.
Encore une fois, n'ouvrez pas cette boîte de Pandore, elle est pleine de chevaux de Troie.
Oui, c'était dans le congrès travailliste, c'est resté célèbre.
C'était en parlant de l'UE, disant il ne faut pas qu'on rentre... C'était les travaillistes aussi,
qui ne voulaient pas en
entendre parler, et qui disaient n'ouvrons pas la boîte de chevaux de Troie de l'UE, de la boîte de Pandore, elle est pleine de chevaux de Troie.
Donc voilà, c'est tout ça, si vous voulez, c'était simplement pour vous montrer... que les solutions existent, que le diagnostic existe, que tout ça existe, mais que pour des raisons complètement incompréhensibles, personne ne veut en entendre parler en France.
Des questions compréhensibles de manque de courage politique. Écoute, je pense que si on peut voir... Là, si tu veux, on a vu l'épisode, par exemple, Le Cornu. Enfin, je veux dire, c'est... je commence un truc, au bout de 5 minutes, oh non, c'est trop fatigant, je démissionne.
J'y arrive pas. Et je trouve qu'on retrouve aussi les analyses de René Girard, qui dit que le but de l'homme politique, c'est quand même de trouver des boucs émissaires. C'est pas de régler les problèmes. C'est de dire, c'est la faute des juifs, des banquiers, des riches, des arabes, vous choisissez celui que vous préférez, hein, c'est pas grave. Mais c'est toujours trouver des boucs émissaires. Et là, on voit très bien que la gauche est à la recherche de boucs émissaires. Bon, la droite, elle les a trouvés il y a déjà longtemps. Et donc, vous dites, mais les gars, le problème, c'est pas le bouc émissaire, le problème, c'est le problème. C'est marrant, cette recherche désespérée du bouc émissaire.
Oui, comme on dit sur les internets, je ne serai pas ton bouquet mystère.
Voilà.
Après le proverbial poteau rose. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on vous aura pas trop mis le moral à l'envers.
Mais parce non, parce que la solution existe.
La solution existe. Il faut juste qu'on ait des qu'on trouve une pêche aux coronets dans les
politiques. Qu'il y ait un gars qui arrive. Et j'aurais pu faire le même. Avec la Suède, je l'ai fait avec la Suède, mais on pouvait le faire avec la Grande-Bretagne et Mme Thatcher, parce que c'était pareil. Ils étaient en faillite en 77.
Complètement.
Et hop, ils sont arrivés, ils sont retournés, Mme Thatcher l'a taillé, et puis voilà. Donc, c'est ce qu'est en train d'essayer de faire Milei en Argentine, c'est ce qu'avait fait, comment il s'appelait, Chrétien au Canada. C'est toujours le même principe.
C'est du réalisme.
C'est dire, les gars, faut essayer de pas dépenser. Vous pouvez dépenser plus que vous gagnez si vous faites des investissements, si vous faites des centrales nucléaires. Mais si c'est pour faire des transferts sociaux pour payer les retraites,
il n'y a pas d'approfondissement du capital et donc à terme vous n'aurez pas de croissance de votre
vous
épargne.
Vous aurez pris votre capital pour le donner à des gens qui vont le consommer, l'épargne pour le donner à la
pour
consommation.
Pour acheter des Nike et des hauts tacos.
Oui, voilà. Et puis, mais à ce moment-là, ben, vous n'aurez pas la source de capital qui vous permettrait de faire les gains de productivité pour rembourser la dette. Donc, c'est idiot.
Ou une centrale nucléaire.
Voilà. Donc, tout ça, c'est pas compliqué. Vous le montrez en 5 ou 6 graphiques. Et il faut simplement se mettre au boulot, quoi.
Voilà.
Et dire à tous les entrepreneurs français, revenez de l'étranger, on va cesser de vous martyriser.
Oui, mais ça n'en prend pas le chemin pour l'instant. Je ne pense pas que les gens soient en train de revenir de l'étranger.
Non, ils sont en train de partir, oui. Si tu parles aux Suisses et tout, ils voient arriver de nouveau le vin.
Bien sûr. Bah, ce n'est pas en ayant du tax Zuckman et du Glucksmann matin, midi et soir qu'on va très loin. Voilà, mais en tout cas, merci infiniment de nous avoir suivis. On est ravis de vous avoir pu
ça
vous proposer.
Ça apparaîtra sur votre écran.
Oui, et n'hésitez pas à poser vos questions en dessous. Et probablement que la semaine prochaine, on fera une émission de questions.
Peut-être là-dessus, d'ailleurs, s'ils veulent bien.
Oui, sur ça et toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport au marché. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis.
Merci
à très bientôt.
Fois.
Merci.